Jean-Jacques.
Bon. Alors, moi, j'avais mis comme titre « De quoi l'analyse doit-il répondre ?» C'est-à-dire, en somme, qu'est-ce que c'est l'éthique du psychanalyste ? Et est-ce qu'il y en a une ? Lacan, pour sa part, n'évoque que l'éthique de la psychanalyse. Il précisera son idée avec le bien-dire, mais dans ce cas, c'est du bien-dire de l'analysant qu'il s'agit. Hein ? Alors, l'une des réponses de Lacan, que je retiens sur la question de l'éthique du psychanalyste, semble ne pas en être une. Il répond « avec son style ». Bon. En quoi est-ce une réponse et comment comprendre cette formule ? Quel est ce savoir ou cette connaissance avec lequel il peut et doit donc répondre ? Alors, comment l'analyse s'y prend pour que son analysant s'affirme comme mieux disant ? Tout de suite, je dis non, car le mieux est l'ennemi du bien, comme chacun sait, et que son analysant seulement dise bien et nous serons contents. L'éthique du psychanalyste, sa responsabilité, implique de faire en sorte que, notons que le terme « éthique du psychanalyste » ne figure, à ma connaissance, vous savez, avec les moteurs, on peut chercher comme ça, hein, énoncé par Lacan qu'une fois. Et encore, c'est pour évoquer une déontologie qui ne répond pas à la question de l'éthique de la psychanalyse. Donc, il l'évoque d'un autre à l'autre. Il dit comme ça, bon, je cite pas tout, hein. Donc il y a 10 ans, commençant d'introduire la question, je vous l'ai dit, qui n'avait jamais été même élevé, ce qui est bien singulier, éthique de la psychanalyse, assurément peut-être plus étrange à cette remarque, quand il s'agit, je saute un peu, hein, quand il s'agit de morale, de conscience, ajouter morale, je n'ai point trop fait remarquer alors, donc on est 10 ans après l'éthique de la psychanalyse, hein, donc, Carlos vient de parler. Donc, l'éthique du psychanalyste telle qu'elle est constituée par une déontologie ne donnait même pas l'ébauche, l'amorce, le plus petit trait de commencement de l'éthique de la psychanalyse. Par contre, ce que j'ai annoncé d'entrée de jeu, c'est que de par l'événement Freud, etc., le centre de l'éthique n'est rien d'autre, alors c'est là, rappel, c'est dans le réel que je désignais le point pivot de ce qu'il en est de l'éthique de la psychanalyse. Bon. Je suppose bien sûr que ce réel est soumis, alors c'est là où, c'est, vous allez voir, insister un petit peu, que ce réel est soumis à la très sévère interposition, si je puis m'exprimer ainsi, du fonctionnement conjoint du symbolique et de l'imaginaire. Et que c'est pour autant que le réel, si l'on peut dire, n'est pas facile d'accès, qu'il est pour nous la référence autour de quoi doit tourner la révision du problème de l'éthique. Alors, si je vous donne cette citation, c'est pour donc la suite, c'est-à-dire la très sévère interposition du symbolique et de l'imaginaire sans laquelle il n'y a pas d'accès au réel. Donc, c'est un rappel ici. Le psychanalyste, donc, doit prendre connaissance d'un certain nombre de choses. Bien sûr, on a l'idée de ça dans les séances préliminaires, mais cette connaissance ne s'arrête pas là. Ce savoir-là, je veux dire, c'est toute l'affaire de savoir quel rapport il a avec le savoir inconscient, qui, lui, repose sur ce qu'il ne sait pas, sur ce qu'il n'a pas à savoir ni à trop anticiper, sur ce qu'a à dire le sujet qu'il écoute. Mais il y a aussi une responsabilité concernant ce qu'il a à savoir. Et on pourra lui tenir rigueur de tel de ses manquements. Et notamment de ne pas s'être tenu suffisamment informé. Appelons ce savoir-là, faute de mieux, connaissance. Ce n'est pas hasard que Lacan ait conservé ce terme de savoir avec toute l'équivoque qu'il comporte. C'est que ce que l'analysant porte à la connaissance de l'analyste n'est pas sans relation avec le savoir inconscient parce qu'il en fournit le cadre. Alors, il y a deux citations là qui viennent. L'une, je les donne dans un ordre dispersé, disons. L'une est dans Encore, le séminaire, où il est encore question de l'éthique. Vous savez, il insiste beaucoup sur le fait que s'il y avait un séminaire qui devait être publié, c'est l'éthique, etc. Là-dessus, je ne suis pas refusé dans cette année que j'évoquais la dernière fois de l'éthique de la psychanalyse à me référer à l'amour courtois. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je peux bien faire l'amour courtois là-dedans. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est une façon tout à fait raffinée de suppléer à l'absence de rapport sexuel en feignant que c'est nous qui y mettons obstacle. C'est vraiment la chose la plus formidable qu'on ait jamais tentée. Mais comment en dénoncer la feinte? Et il ajoute cette chose très importante, dont on fera usage un petit peu plus loin, au lieu d'être là à flotter sur le paradoxe que l'amour courtois soit apparu à l'époque féodale, les matérialistes devraient y voir une magnifique occasion de montrer au contraire comment il s'enracine, l'amour courtois, dans le discours de la féalité, de la fidélité à la personne. Bon. Et il ajoute, l'amour courtois, c'est pour l'homme la seule façon de se tirer avec élégance de l'absence du rapport sexuel. Il y a une autre citation qui n'a pas de rapport avec celle-ci, bien entendu. C'est une citation où Lacan parle de Margaret Little, c'est dans l'angoisse, et il dit, il parle de la position d'analyste de Margaret Little, qui va jusqu'à prendre les positions les plus contraires à ce qui est l'ordinaire analytique. Ce n'est pas dire qu'elle soit fausse aux formulations classiques, c'est à savoir que loin de rester hors du jeu, il faut que l'analyse s'y suppose, en principe, engagée jusqu'à la garde, se considère à l'occasion effectivement comme responsable, etc. Et en tout cas, ne se refusant jamais à témoigner si, concernant ce qui se passe dans l'analyse, elle est par exemple appelée de son sujet devant une cour de justice à répondre. Alors, Lacan dit, je ne dis pas là que ce soit une attitude soutenable. Je dis que l'évoquer, placer à l'intérieur de cette perspective la fonction de l'analyste est quelque chose qui assurément vous paraîtra d'une originalité qui prête à problème. Alors, pourquoi je donne ces citations ? Le cas de Margaret Little me paraît, je n'étais pas aperçu, enfin c'est encore une marguerite. On en a toute une série des marguerites, Le cas de Margaret Little me paraît traiter de la question, c'est-à-dire le moment où l'analyste précisément sort de l'épure. C'est un moment qui permet de faire valoir ce que Lacan appelle coupure. Pourquoi le propos qui fait interprétation et qui pourtant n'est guère conforme au classique de l'interprétation est-il efficace? C'est la question. Alors, là, je vais citer quelqu'un d'autre qui est... pas vu, qui est seul, ici, cette même année. Donc, certain nombre de considérations, dans un exposé que je trouvais excellent, que je voudrais prolonger. Voilà ce qu'elle dit. On quitte le registre des états d'âme, celui de la sentimentalité propre par l'être, pour prendre en compte la façon dont le corps est affecté par la structure. Il y a la question du péché. Je dirais qu'on passe ainsi de la morale à l'éthique en empruntant la voie de l'inconscient, ce qui suppose que l'on quitte le registre de la personne pour se tourner vers le sujet du discours. Alors, donc, ça m'a indiquer et en même temps, je voudrais poursuivre. La question de savoir de quelle responsabilité exactement l'analyste doit être tenu pour responsable. Une fois précisé que cette responsabilité concerne l'inconscient, eh bien, la question reste ouverte. Je veux dire qu'il peut sembler commode, sans doute, d'être responsable au titre de l'inconscient, d'autant plus que, comme vous le savez, l'inconscient est inconscient. Bon. Précisément, pour faire valoir l'inconscient, il faut s'intéresser un petit peu à son écrin. Par exemple, muse, enfin, les silences mozartiens sont en effet formidables, à condition d'avoir tout ce qui, autour, leur fait place. Si l'éthique relève du réel propre à chacun et distribue lâcheté et courage en fonction de sa position propre, alors, en effet, chaque situation mérite d'être évaluée. Et il était question de jugement, et Lacan ne recule pas devant le terme de jugement. Donc, est-ce qu'il est vrai, est-il vrai que l'analyste ne juge pas? Les exemples d'Antigone ou d'Hamlet démontrent qu'il ne juge pas, en effet. En tout cas, il ne juge pas, pour Antigone selon la logique de Créon, ou du père d'Ophélie, n'est-ce pas, pour ce qui est, selon la logique du père d'Ophélie, pour Hamlet, mais il juge néanmoins en fonction de chacun et peut trancher. D'ailleurs, c'est bien ce qu'entend Lacan avec son, vous savez, tu l'as dit, de l'interprétation, qui est la définition qu'il donne de l'interprétation. Tu l'as dit. Bon. Je me servirai volontiers d'une formule du style l'éthique mais pas sans la morale, ou l'éthique au-delà de la morale, formule qui en effet redouble celle de l'au-delà de l'Édipe, ou du nom du père, dont on peut se passer à condition. Vous vous souvenez sans doute, donc le séminaire du Saint-Homme. Je pense qu'effectivement le psychanalyste ne peut pas se concevoir autrement que comme un Saint-Homme. Ça a été cité, c'est pas la psychanalyste qui est un Saint-Homme, c'est le psychanalyste. Je vous fais remarquer que cette proposition du Saint-Homme, enfin du séminaire, donc 23, sur Joyce, est tout à fait dans la suite de sa proposition du séminaire de l'angoisse, l'analyste comme complément du symptôme. Ça dit la même chose. Bon, alors si je citais ça, c'était pour avoir la fin. À savoir, l'hypothèse de l'inconscient, Freud le souligne, c'est quelque chose qui ne peut tenir qu'à supposer le nom du père. Supposer le nom du père, certes, c'est Dieu. C'est en ça que la psychanalyse, de réussir, prouve que le nom du père, on peut aussi bien s'en passer, on peut aussi bien s'en passer à condition de s'en servir. Donc, j'insiste, n'est-ce pas, sur ce que j'ai appelé, j'ai dit, l'éthique au-delà de la morale, c'est-à-dire mais pas sans. Mais pas sans. J'insiste ici sur ce qu'on oublie à l'occasion, la condition. J'ai pas dit la condition féminine, mais j'aurais pu. On comprend qu'une large part de la rhétorique lacanienne soit construite sur le passant, aussi bien que sur le pas-tout. Notez bien la différence, elle aussi centrale, dans le mode de prendre en charge l'inconscient et à partir de quoi. Par exemple, cette formule que vous connaissez bien, ça nous suffit à voir que l'interprétation du « et » du sens et va contre la signification. Eh bien, cette formule n'ignore pas la signification. Sinon, comment aller contre? J'ai le sentiment d'enfoncer des portes ouvertes. Et pourtant, j'ai été trop baigné dans une certaine confusion qui ignore, semble-t-il, la réalité et qui, cherchant le réel au-delà du symbolique, vient à se fourvoyer dans les méandres du signifiant à tout crin. Je parle comme ça de... On peut confondre un délire sénesthésique, avec la jouissance dite supplémentaire, n'est-ce pas? Je me souviens comme ça d'un exposé d'une hystérique, n'est-ce pas, qui jouit dans son corps lorsque l'objet de son amour entre dans la pièce, à l'autre bout de la pièce, où se trouvent une bonne centaine de personnes. Donc, je dis que ça, c'est la jouissance supplémentaire. Bien. L'ennui du supplémentaire, n'est-ce pas, c'est qu'il oublie un tout petit peu le nécessaire. La jouissance supplémentaire va. D'accord. Alors, bon. Donc, je m'explique avec Lacan, car c'est le statut de la psychanalyse qui est en cause. Il y a un malentendu sur le signifiant, ce qu'il désigne pour Lacan et l'accès qu'il permet à l'inconscient. Si on croit que ça va tout seul, qu'il suffit d'appuyer sur le bouton du signifiant, or, c'est faux, il est du statut même de l'inconscient de devoir être réinventé chaque fois, à propos de chaque signifiant, et c'est là ce en quoi consiste le réel. Sinon, il n'y aurait pas surprise. Alors c'est formidable quand il arrive que la psychanalyse soit d'évidence pour un sujet. Et en somme, quand l'analyste n'a rien d'autre à faire qu'à écouter et attendre que tombent toutes crues les formations de l'inconscient. Mais c'est rare. On dit que c'est encore plus rare qu'avant. En réalité, la nécessité des conditions est bien présente dans la critique de tout ce qui est neutralité de l'analyste. D'une part, parce que ce qui est ainsi masqué réapparaît autrement de toute façon, mais d'autre part, parce que la liberté du psychanalyste dans la manœuvre du transfert avec tel ou tel est atteinte. Alors, je vais reprendre ici un des exemples que j'avais traité il y a très longtemps, mais qui me paraît jouer un rôle important dans l'ordonnancement de l'enseignement de Lacan. Il s'agit de Winnicott. Alors, Lacan a rendu hommage, n'est-ce pas, à l'auteur de l'objet transitionnel qui anticipait si bien son objet petit a. Bien. Voilà, mais aussi d'en recevoir cet objet transitionnel des mains plus distantes de l'enfant qu'il nous faut bien lui rendre ici, puisque c'est à partir de lui que nous avons d'abord formulé l'objet petit a. Bien. Ça, c'est le côté hommage. Mais vous savez, il fait beaucoup hommage critique, normal. Donc il le critique au moment de l'invention de la passe, précisément. À propos de l'acte analytique et la responsabilité de l'acte. Bien évidemment, dans le prolongement de l'éthique, personne ne doute que l'acte analytique, que l'acte analytique soit dans le prolongement de l'éthique. Disons qu'elle est ce que l'éthique implique. Alors la critique sévère porte sur l'autre objet de son expérience, vous savez, le faux être. Winnicott, il a parlé de deux choses, l'objet petit a et le faux être. Enfin, d'un certain nombre d'autres choses. D'accord. Bon. Alors, le faux self, c'est pas que Lacan ait quelque chose contre la notion, laquelle désigne une forme de psychose latente ou discrète. Aujourd'hui, vous pourrez dire psychose ordinaire, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Alors, donc, c'est pas ça qu'il discute. Ce qu'il discute, c'est que parce qu'il désigne le faux self, ça le conduit à renoncer à l'acte analytique. En clair. Qu'il juge utile de boire le thé avec son patient, parce que c'était ça le truc, ça ne doit pas lui faire renoncer pour autant à considérer qu'il ne s'extrait pas pour autant de l'acte analytique. Voilà la thèse de Lacan. C'est-à-dire qu'en somme, l'acte analytique ne se réduit pas au setting, c'est-à-dire au cadre de la séance, le divan, et qui est ce qui figure explicitement dans l'article de Winnicott sur le faux self. C'est-à-dire, il dit, je ne fais plus la psychanalyse, je fais autre chose. Bon. Et Lacan dit non. c'est là l'indice de la même position que celle où Lacan avait critiqué Freud, lequel avait renoncé à l'analyse de la jeune homosexuelle parce qu'elle l'aurait trompé, rêvant de mariage et d'enfants. La tromperie, fut-elle avérée, ne constituait pas, aux yeux de Lacan, un argument. Il semble bien que la tromperie délirante ne le soit pas davantage. Alors, je passe sur les citations de Lacan qui disent à peu près ce que j'ai dit là. L'important de cette remarque sur Winnicott dans le séminaire précisément consacré à l'acte analytique devient manifeste non seulement de sa reprise dans l'intervention citée à l'instant, enfin je ne vais pas citer, mais aussi de ce qu'elle figure en bonne place dans son compte-rendu résumé en quelques pages de toute son année. Vous savez, c'est le résumé de l'école pratique des hautes études que vous trouvez donc dans les autres écrits, page 378 et suivant. Donc, chaque fois, le psychanalyste, en tant qu'il est cause du désir, n'a pas à être exclu dans l'opération. En gros, c'est ça que ça dit. C'est pas parce qu'on boit le thé que ça change quelque chose à l'ordonnancement de la parole et à l'acte analytique. Bon, là aussi je passe sur les citations. Aussi bien l'acte lui-même ne peut-il fonctionner comme prédicat, et pour l'imputer au sujet qu'il détermine, convient-il de reposer de nouveaux termes, toute l'inventio medii, en latin, l'invention des moyens. C'est à quoi peut s'éprouver l'objectita. Alors ça, je considère que c'est une... Ouais. Quel est l'intérêt pour nous de ces considérations ? D'abord que les conditions de l'exercice de la psychanalyse dépendent des circonstances éminemment variées auxquelles le psychanalyste a à faire face, et ici précisément de ce que nécessite la spécificité de la psychose. Mais pas seulement. Deux. Que l'acte du psychanalyste doit y être reconnu comme tel au-delà du non-respect du setting classique. Ici, Lacan est davantage conforme au prétendu balbutiement des premiers analystes, c'est-à-dire Freud, Ferenczi, qui, il faut bien le dire, ignorait les exigences du setting tel qu'il s'est mis en place par la suite. Donc, il s'agit de faire dépendre l'acte du cas et de rien d'autre. 3. Il s'en déduit qu'en ce qui concerne l'acte, la psychose ne constitue pas un obstacle. 4. Que ceci doit être entendu comme un complément éthique exigible pour tout sujet en analyse et qui ne vaut pas seulement comme une liberté que la psychose rendrait nécessaire. 5. Dès lors, la responsabilité du psychanalyste est engagée vers ce qu'il a appelé l'inventio medii. Des moyens qui soient propres à l'analyste, mais aussi adaptés à réinventer son acte devant chaque sujet qui se présente à lui. Finalement, peu importe comment il s'y prend, tous les coups sont permis ou à peu près, pourvu que la dimension propre de la parole de l'analysant y trouve sa place. Mais je souhaite revenir autrement sur le problème tel qu'il se pose à Lacan, comment lier l'éthique et la question amoureuse et sexuelle. C'est pour ça que je vous avais un petit peu parlé de l'amour courtois au début. Ce qu'il tente de résoudre grâce à l'amour courtois. Alors, vraiment, c'est vrai que j'ai développé ça ailleurs, mais c'est quand même tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas, cette référence à Lucien Febvre, qui a écrit un livre sur l'incroyance qui est en fait un livre sur Rabelais, et puis un autre livre qui est autour de l'Heptaméron de la Reine de Navarre. Bon, or, cette dixième nouvelle de l'Heptaméron de la Reine de Navarre, Lacan l'a utilisée, enfin l'a il l'a eu comme livre de chevet pendant son séminaire sur l'éthique. Alors, pourquoi la nouvelle 10 de la reine de Navarre est-il le viatique de Lacan dans l'éthique de la psychanalyse? Il y répond à plusieurs reprises, il y a plusieurs notations comme ça là-dessus, et je dois dire, ça m'a passablement intrigué sur quel est l'intérêt de la chose. Alors, par exemple, l'un des intérêts, je ne vais pas revenir vraiment sur le détail de tout ça, mais enfin, pourquoi Lacan s'intéresse à tout ça? Eh bien, justement, à propos de l'écart entre morale et éthique, lorsque cet écart qu'il va magnifier avec son commentaire sur Antigone à la fin du séminaire de l'éthique, je dirais que dans Antigone, enfin, le problème de l'amour pour toi, enfin de la nouvelle, la fameuse nouvelle de la reine de Navarre, eh bien, c'est que la loi d'Antigone, si vous voulez, se distingue de la loi représentée par Créon, parce que les deux sont installés bien distinctement l'un de l'autre. C'est-à-dire, et en même temps assez éloigné de nos usages actuels. Donc vous avez Antigone, Créon, et je dirais, on comprend bien ce qui anime les uns et les autres. C'est pas quelle est la morale et quelle est l'éthique personnelle d'Antigone qui la guide. Aujourd'hui, le cadavre n'est plus le représentant décisif du devoir et de la loi. Il l'est encore un peu, mais pas tellement. On a remarqué de nos jours, la crémation, par exemple, occupe enfin beaucoup de terrain. Bien. Alors, cette différence-là est beaucoup plus difficile à dégager précisément dans la France du XVIe siècle, où a lieu la nouvelle, c'est-à-dire que on est à la fois trop proche et assez éloigné pour que la distinction comme ça des positions puisse se faire clairement. C'est ça le problème. Alors, évidemment, on pourrait dire, après tout, ça n'est jamais que le problème qui a été mis à l'ordre du jour avec MeToo, hein. On pourrait dire, Marguerite, MeToo, hein, puisque, en fait, il est question de viol, enfin, voilà, tentative de viol dans la nouvelle, et puis on pense que ça a dû arriver à la dite Marguerite, qui quand même, pour la situer, je vous rappelle, c'était la sœur de François Ier, la grand-mère d'Henri IV, enfin, c'était pas absolument un personnage de second rang. Bon, donc, elle raconte un petit peu des histoires personnelles qui sont, après tout, enfin, qu'on pourrait croire, justement, proches de celle qu'on nous raconte aujourd'hui. Après tout. Or, précisément, on ne vit pas dans le même monde, enfin. Peut-être pas. Et donc, c'est cette différence qui fait que, par exemple, dans cet exemple-là, eh bien, on n'arrête pas de comprendre de travers. Et c'est ça que Lacan souligne. C'est-à-dire, il souligne que on ne saisit pas très bien, par exemple, le problème de la croyance. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est un thème très important dans le développement de Lacan. D'ailleurs, le problème de la croyance, l'incroyance. Par exemple, on ne comprend pas pourquoi elle peut être à la fois, disons, un peu rédiger des ouvrages religieux d'un côté, et puis de l'autre côté, disons, s'en prendre au cordelier. Un cordelier, vous savez, c'est des moines. Effectivement, quand ils arrivaient quelque part, les filles, elles devaient se garer, hein, parce que c'était assez dangereux. Voilà. Donc, voilà l'anticléricalisme. Hein, ça ne va pas contre la croyance. Et à l'époque, on pouvait être très anticlérical, bon, etc. C'est ça qu'il explique, Lucien Febvre. Et c'est ça qui intéresse beaucoup Lacan, parce que, en quelque sorte, ça met en tension des éléments qui sont justement mélangés, là où ils sont plus facilement dégagés dans Antigone. Plus facile de faire la différence, de voir qui est quoi. Mais simplement, vous comprenez, quand on vous dit, là je prends ça, hein, quand on a affaire à une sage, qu'on ne la peut tromper, et si bonne qu'on ne la peut gagner par parole ni présent. Hein, c'est un homme qui parle, hein, je vous dis. Bon. La chute. N'est-ce pas raison de chercher par tous les moyens que l'on peut pour en avoir la victoire ? La victoire, c'est le seul but. Les moyens, tous, jusqu'à l'assassinat. Voilà. Donc, effectivement, il faut un peu s'accrocher, c'est-à-dire saisir, comme on dit, placer la chose dans le contexte de la croyance, etc. Alors, voilà ce que... Bon, je ne veux pas trop poursuivre, mais... Attendez, si, quand même. Je... Une seconde, quelque part, un tout petit peu... Hein? Voilà, oui, oui, c'est ça. Évidemment, pour qu'il puisse dire que le problème de Marguerite de Navarre, c'est le même. Marguerite de Navarre, évidemment, là, il ne s'intéresse pas du tout. C'est quelque chose que je voulais quand même aussi souligner dans tous ses commentaires sur les. Sur les textes, hein, on voit bien qu'il s'intéresse à Hamlet et pas à Shakespeare. Cela dit, il ne pourrait pas parce que Shakespeare, on ne sait rien. Mais bon, il s'intéresse à la trilogie édipienne au théâtre, mais pas à Sophocle, enfin que je sache. Et pareil pour Claudel, il s'intéresse à la pièce de théâtre. Il s'intéresse aux textes de l'amour courtois plutôt qu'à leurs auteurs, et il s'intéresse à la nouvelle de Marguerite de Navarre, et il s'intéresse au roman de l'autre Marguerite, Duras, n'est-ce pas, Le ravissement de Löwenstein, plutôt qu'à leur biographie. L'hommage peut nous tromper à cet égard, en somme qui rendrait hommage à Duras, n'est-ce pas, s'intéressant à Duras, pas du tout. Il vaut pour l'œuvre accomplie. Et je crois que ça, c'est vraiment très important, parce que faut déjà saisir ça. Et ensuite, ensuite il y a l'affaire de quel rapport il fait entre Marguerite Duras, enfin entre Löwenstein, n'est-ce pas, et l'héroïne de l'Heptaméron de la reine de Navarre. Et or, il dit, c'est pareil. Alors maintenant, après ça se complique de savoir pourquoi, mais je crois que c'est vraiment, ça implique véritablement l'écart que Lacan va retrouver dans la littérature, justement cet écart entre morale et éthique. Parce que la reine de Navarre, justement, il y a quelque chose de très frappant, hein, c'est qu'avec toutes les horreurs dont il est question dans la nouvelle, dans les nouvelles, mais dans celle-là en particulier, elle n'émet pas de jugement. Pourquoi elle n'émet pas de jugement? Parce qu'à l'époque, c'est Dieu qui décide. Donc faut, l'espèce de difficulté à saisir ça, c'est-à-dire que pour entrer dans la dimension éthique, au-delà de la morale, faut avoir une petite idée du contexte dans lequel ça se passe. Et justement, c'est là où on voit que... Parce qu'en même temps, je me suis demandé aussi, mais pourquoi, puisqu'il avait ça comme livre de chevet, pourquoi il n'en a pas parlé à ce moment-là? Parce que justement, pour appréhender ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'Antigone. Avec Antigone, le partage se fait plus facilement. Voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter.